Qu'est-ce que l'islam chiite ? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, dans notre dernière émission, nous avons écouté Henri Corbin nous dire, dans le prologue de ses 4 volumes intitulés « En islam iranien », que pour connaître et comprendre les faits religieux, il faut abandonner toute démarche qui voudrait les aborder sans les prendre dans leur réalité vécue, en les séparant des consciences qui les font exister et être ce qu'ils sont. Mais au contraire, qu'il fallait rencontrer le fait religieux là où il a lieu et où il a son lieu, c'est-à-dire dans les âmes des croyants. Laissez se montrer ce qui s'est montré à eux, car c'est cela, le fait religieux. Dans le cas du chiisme, poursuivait Henri Corbin, sanctuaire de l'ésotérisme de l'islam, plus encore peut-être que pour tout autre univers religieux, la condition sine qua non pour en pénétrer et en vivre l'esprit, c'est d'en être l'hôte spirituel. Mais être l'hôte spirituel d'un univers spirituel, c'est commencer par lui faire en vous-même une demeure. Il n'est possible de vivre dans l'univers spirituel chiite comme en tout autre univers spirituel et de comprendre comment l'on y vit qu'à la condition qu'il vive aussi en vous. Sans cette intériorisation, on n'en parlera que de l'extérieur et probablement à contresens, car l'on ne peut décrire un édifice dans lequel on n'a jamais pénétré. La qualité d'hôte ne peut être celle d'un visiteur en week-end, mais celle d'un hôte à demeure, finalement celle d'un adopté partageant les obligations des fils de la maison. Fin de citation. Après cette longue introduction en plusieurs émissions, il est temps d'entrer dans le vif de notre propos, qui est, rappelons-le, de présenter de la manière la plus compréhensible possible pour un auditeur qui n'est pas chiite, la conception que les chiites eux-mêmes ont de leur religion et de son histoire, et la manière dont ils vivent leur religion au quotidien, tant dans leurs pratiques cultuelles que dans leur vie sociale. Le premier point sur lequel il convient d'insister dès l'abord est celui qui justifie notre titre. Pourquoi parler d'islam chiite plutôt que de chiisme, comme il est habituel de le faire? Tout simplement pour insister sur le fait que, pour un chiite, le chiisme n'est rien d'autre ni de plus que l'islam lui-même. Jamais des chiites parlant entre eux ne diront que le chiisme dit ceci ou cela, où le chiisme prescrit ceci ou cela. Ils diront tout simplement que l'islam dit ceci ou cela, ou que l'islam prescrit ceci ou cela. Pour un chiite, comme pour un sunnite d'ailleurs, la seule et unique référence est l'islam, et il ne se considère lui-même comme rien d'autre que comme musulman. Ce n'est que s'il est question de comparaison ou de confrontation avec un autre point de vue, que l'un ou l'autre préciseront, c'est ainsi dans l'islam sunnite ou dans l'islam chiite, ou encore c'est ainsi selon l'école sunnite ou chiite, ou dans le sunnisme ou le chiisme. Autrement dit, pour un chiite comme pour un sunnite, il n'existe pas plusieurs islams ou plusieurs branches de l'islam, mais un seul et unique islam, qui est bien entendu le leur, l'autre étant pour les plus ouverts d'entre eux, une compréhension tronquée ou inférieure de l'islam, et pour les moins tolérants, une déviation hérétique de l'islam. La question qui se pose en ce dernier cas est de savoir si pour eux, la déviation est telle qu'elle exclut l'hérésie en question du cadre de l'islam ou non? Pour l'immense majorité des savants religieux sunnites au cours de l'histoire jusqu'à nos jours, le chiisme est divisé en chiisme modéré et chiisme exagérateur. Le premier ne sortant pas du cadre de l'islam, tandis que le second s'en écarte par des exagérations telles que considérer les imams comme Dieu ou comme incarnation de Dieu, ou encore considérer que les fidèles des imams sont dispensés de mettre en pratique la sharia, la loi révélée. Est généralement classée parmi les formes modérées de chiisme celle qu'il nomme le chiisme duodécimain, c'est-à-dire reconnaissant 12 imams, également nommé imamisme, qui est la forme la plus répandue du chiisme, celle dont il est aujourd'hui question lorsqu'on parle sans plus de précision des chiites d'Iran, d'Irak, du Liban, de la péninsule arabique ou du sous-continent indo-pakistanais. Néanmoins, un nombre infime de savants sunnites se réclamant de l'école salafi considèrent que les chiites duodécimains eux-mêmes sont déjà des exagérateurs sortis de l'islam. Et un nombre encore plus infime de salafis considère qu'il est de ce fait louable, voire obligatoire, de tuer non certes pas tous ces hérétiques, mais à tout le moins ceux qui propagent cette hérésie. Ces idées, innovées au XIIe siècle par un certain Ibn Taymiyyah et condamnées par la majorité des clercs sunnites à travers toute l'histoire, se sont malheureusement renforcés dans ces derniers temps, ces dernières dizaines d'années, grâce au soutien financier et autres que leurs sectateurs ont reçus d'une part du wahhabisme officiel séoudien et d'autre part de services secrets occidentaux, en particulier anglais puis américains, surtout lors des années du djihad afghan contre l'invasion soviétique. De jeunes musulmans sunnites sincères et motivés, qui avaient rejoint l'Afghanistan pour participer à ce djihad, y ont été mentalement déformés, en même temps que militairement formés, par les hommes des services secrets américains et autres, et par leurs sous-traitants musulmans regroupés autour de la figure charismatique de Ben Laden. C'est par le biais de ces jeunes, retournés dans leur pays d'origine après la fin du djihad afghan, que ces idées extrémistes et meurtrières ont été diffusées dans le monde musulman tout entier. Ce sont ces idées qui animent maintenant les mouvements dits « takfiri » qui se sont tristement illustrés par leurs massacres de chiites perpétrés au Pakistan, tout en Irak. Quant aux clercs chiites, pour eux, le sunnisme est tout simplement un islam amputé de sa dimension essentielle, qui est la dévotion aux imams. Autrement dit, pour un chiite, le sunnisme est un islam sans âme. Mais un islam sans âme reste l'islam tout de même. Le sunnite est donc pour eux pleinement et entièrement musulman, avec tout ce que cela implique, comme par exemple la licéité du mariage et de l'héritage réciproque. Mais le sunnite ne pourra pas être considéré comme pleinement fidèle, c'est-à-dire comme pleinement homme de foi ou femme de foi, tout simplement parce qu'il n'a pas foi aux imams. Les chiites désignent d'ailleurs généralement les sunnites par le terme de « am » qui veut dire « le commun ». Les sunnites sont ainsi considérés comme le commun des musulmans, tandis que les chiites en sont la « khassa », l'élite. Sont cependant à distinguer des sunnites ceux qui font preuve d'animosité envers les imams ou envers leurs fidèles, c'est-à-dire les chiites. Ceux-là sont nommés des nawasib, pluriel de nasibi, et s'ils bénéficient toujours du statut légal de musulmans, leur haine des imams ou de leurs fidèles interdit néanmoins qu'on puisse les fréquenter et leur appliquer les statuts de l'islam. Mais il n'est pas pour autant licite de verser leur sang, car il n'est pas licite pour le chiisme de verser le sang de quelque être humain que ce soit. Paradoxalement, les chiites exagérateurs, les roulates, sont eux-mêmes considérés par les clercs chiites du haut des cimes comme sortis de l'islam, soit pour avoir divinisé un imam, soit pour s'être considérés comme dispensés des prescriptions de la loi révélée en raison de leur foi en l'imam.